Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court. C'est tous les soirs une heure de conversation. Et comme Anaïs Vaugelade le disait à l'instant, juste avant qu'on commence, le salon du livre et de la presse jeunesse ouvre ses portes à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Et tous ces gens qu'on n'entend jamais, on les invite à la radio. Ça va être fin novembre, mais d'ici là, nous recevrons plusieurs d'entre eux, autrices et auteurs dits jeunesse, dans Par les temps qui courent. Je peux vous dire tout de suite que par ailleurs, une dispute sera menée par Arnaud Laporte et sera consacrée à ces livres-là le 28 novembre. Voilà, et ce soir, nous avons la joie de recevoir Anaïs Vaugelade.
Un tango ? Une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Anaïs Vaugelade. C'est l'histoire d'un loup. Il tient un baluchon sur son épaule droite, il avance vers un village enneigé, c'est l'hiver, et c'est une poule plutôt élégante qui lui ouvre la première porte. Non sans a priori, vous imaginez bien, mais le loup a l'air bonhomme et il veut préparer une soupe aux cailloux, et la poule est curieuse. Il demande l'usage de sa cheminée, réclame une marmite, dépose son gros caillou dedans. La poule se demande s'il ne serait pas futé de rajouter un peu de céleri pour donner du goût, et pourquoi pas, dit le loup, et les convives curieux ou inquiets, ou les deux, se multiplient autour du feu et ajoutent leurs ingrédients favoris. Au final, ils vivent une plutôt bonne soirée, et de soupe aux cailloux, on est passé à soupe aux légumes variés. Le loup repart, caillou dans le baluchon, vers d'autres aventures, et chacun décidera si c'est un opportuniste ou si c'est au contraire celui si précieux qui réunit autour de pas grand-chose. C'est une de vos fameuses histoires, une de vos succès, la soupe aux cailloux, publiée à l'École des loisirs, c'était en 2000. Bonsoir à vous, Anaïs Vaugelade.
Bonsoir.
Le temps a passé, beaucoup de livres ont été publiés depuis presque 20 ans. Depuis ce livre-là. Plus que ça, puisque ça remonte.
Celui-là n'était pas le premier.
Exactement. Ouais.
J'ai rencontré un enfant il n'y a pas très très longtemps, un enfant dans une classe, qui a calculé pour moi, parce que j'évite de calculer.
Quoi, le nombre de livres ou le nombre d'années ?
Le nombre d'années. C'était 27. Et je crois que ce 27 remonte à l'année dernière. Voilà.
Ça fait quoi ?
Bah, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup d'enfants rencontrés aussi ? Vous faites ça souvent ?
Je ne le fais plus très souvent, non. Non mais 27, ça veut dire que de temps en temps, je suis là à ma table en train de dédicacer un livre et je relève la tête et je vois un monsieur à moustache qui me dit « Non mais celui-là, je l'aime particulièrement parce que je l'ai beaucoup lu quand j'étais petit. » Voilà, ça fait bizarre quand même.
Et est-ce que vous me croyez si par exemple moi, même avant d'avoir des enfants, j'en achetais pour moi ?
Je sais que certaines personnes font ça, ouais. Donc je vous crois.
Ça vous raconte quoi sur les livres que vous faites depuis 27 ans ?
Sur les miens en particulier, pas grand-chose, non. Ça peut me renvoyer, moi, à ma propre pratique du livre pour enfants, qui est que j'en achète pas. J'en achète pas et j'en lis pas tellement en dehors, bien sûr, des livres des gens que je publie, puisque je suis aussi un peu éditrice. Mais je préfère nourrir les livres pour enfants dont je m'occupe de tout à fait autre chose.
C'est-à-dire ?
Vraiment tout à fait autre chose. Des livres pour vieux, déjà.
Ce qu'on appelle quoi ? La littérature, quoi ?
Ouais, voilà, de la littérature, de tout ce dont on peut se nourrir. Voilà.
Mais par exemple, de la peinture, de la musique ?
De la peinture, de la musique.
De la vie.
Beaucoup de livres et beaucoup de... Oui, de vie. Ouais. J'ai l'impression que ces livres-là se font par... comment dire ? Si, je peux vous raconter un truc auquel j'ai repensé il n'y a pas très longtemps. Quand je suis arrivée à Paris, donc il y a très 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 longtemps, et au moment où j'allais m'apprêter à faire mes premiers livres pour enfants, il y a donc 27 ans, mettons, je me suis retrouvée un peu par hasard à voir Un ange à ma table de Jane Campion, qui raconte la vie de Janet Frame, qui est poétesse. Et il y a une scène tout à fait à la fin du film qui se passe comme ça. Elle est, il lui est arrivé plein de malheurs, elle a même été internée à un moment. Bon. Et là, elle est recueillie par sa sœur, si je ne dis pas de bêtises. Sa sœur qui, elle, a mené, qui a une vie de famille, qui a des enfants, un mari, qui habite dans une petite maison avec jardin. Et donc, elle accueille sa sœur, mais pas dans la maison. Sa sœur a une... pas une roulotte, enfin, pas un camping-car, une caravane. Une caravane posée devant la maison. Et on voit Janet Frame quitter la maison. On imagine qu'elle a dîné là ou quelque chose comme ça. Et puis, les grandes filles de sa sœur, donc ses nièces, préparent un genre de petite surprise partie. Donc, on entend un twist là qui sort de la maison. Et Janet Frame est entre la maison et sa
caravane.
Elle entend ce twist là, la musique à la mode. Il y a les jeunes qui s'amusent à l'intérieur, tout ça. Elle esquisse un tout petit mouvement de twist, mais non, c'est pas pour elle. Elle rentre dans sa caravane, et alors qu'il y a la musique qu'on continue d'entendre, elle se met à écrire un nouveau poème qui fait « Le vent dans les arbres, hush, hush », quelque chose comme ça. Et je me souviens que quand j'ai vu ce film, c'est comme si ça me donnait une vision de mon futur. C'est-à-dire, il y a la vie, tout ça, mais à un moment, le travail, pour moi, il se passe dans la petite boîte, avec des éléments qui sont comme déjà un peu répertoriés parce que c'est une littérature de genre et c'est avec ces éléments que je combine mon petit travail. Mais ça veut pas dire que la façon, l'énergie avec laquelle je m'y mets pour combiner tout ça se fait couper du monde. C'est-à-dire qu'elle rentre dans sa caravane chargée de cette espèce de chose de jeunesse frémissante qui va danser le twist. Mais c'est pas le twist qu'elle écrit, c'est le vent dans les arbres, hush, là. Voilà.
C'est un peu ce qu'on appelle une chambre à soi après Virginia Woolf.
Un petit peu aussi, voilà. Mais je repense souvent au livre que je fais, dont je m'occupe, comme cette espèce de petite chose contenue comme ça.
C'est une chambre à soi ou une caravane à soi, Anaïs Vaugelade, qui entend les échos de quoi, par exemple, en ce moment? Je n'ai pas parlé des toutes récentes parutions de la famille Quichon, on y reviendra, mais vous diriez que votre chambre, à vous, elle résonne de quel twist ou de quel bruit dans les arbres?
Au moment où j'étais en train de travailler sur la recette, Je précisais les scènes et c'était le grand moment des gilets jaunes. Et je me suis dit, j'ai jamais mis un seul supermarché dans mes dessins.
D'où vous avez eu envie?
J'ai eu envie de mettre un supermarché. Mais c'était pas le point de départ du livre. Le point de départ de ce livre-là...
Donc on va dire que c'est la recette de Sacha Quichon. Ouais. Sacha Quichon qui fait partie de la famille Quichon. La famille Quichon, elle est... Tout ce qu'il y a de plus familial, on va juste dire qu'elle est légèrement élargie puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Et pour ceux qui ne le croient pas, ils ont toute une couverture pour se rendre compte de ce nombre incroyable d'enfants dont dispose la famille Quichon. Ils sont nombreux, quoi. C'est ce qu'on appelle une famille nombreuse.
C'est une famille nombreuse dont j'ai commencé à raconter les histoires il y a pas mal d'années aussi. Hein.
C'est pas moi qui remonte en arrière, Anaïs Vaugelade.
Et je crois que j'en avais fait 7 ou 8, je sais plus. En fait, l'idée, c'est que je voulais faire une série en me disant que ça allait me faciliter le travail, de poser un cadre et de glisser mes histoires, tous les échos du monde, de les glisser dans une petite forme qui aurait déjà été un peu calibrée. Puis je trouvais pas. Et la seule bonne idée qui me soit venue, c'est de raconter l'histoire d'une famille. Alors c'est une fausse série un peu parce que oui, c'est la famille Quichon, mais à l'intérieur de cette famille, tous les individus, tous les enfants, les parents, sont tous des individus singuliers. Et mon idée de série, c'était de faire un livre pour chaque membre de cette famille.
Présenté comme une forme de portrait à chaque fois.
Comme un portrait, voilà. C'est un portrait de chaque enfant. Et du papa et de la maman aussi. Donc j'avais fait 10 d'histoires comme ça et puis je m'étais interrompue pour une raison vraiment très... bête, c'est que mon appartement où je travaille a été cambriolé. Et le cambrioleur est parti avec l'ordinateur et les disques durs de sauvegarde qui étaient attachés à l'ordinateur, là, comme ça. Et j'ai perdu une bonne dizaine d'histoires déjà écrites. Et même si je m'en souvenais, je me souviens de ce que je note, mais l'envie était tuée. Je ne voulais plus. Je les ai reposés sur papier, mais ça... j'avais pas envie de faire ça, quoi. Et l'envie est revenue, donc, presque 10 ans plus tard. Non, mais je ne suis pas rapide. Hein. Grâce à une amie comédienne qui s'appelle Anne Giroir, qui m'a demandé si elle pouvait, à l'occasion d'une carte blanche, faire une lecture des livres de la famille Quichon, qu'elle aime bien et qu'elle a beaucoup lu à ses enfants. Alors, ça m'a fait très plaisir, ça m'a flattée. Et pour un peu augmenter le volume, j'ai ressorti de mon ordinateur les réécritures, les versions 2. Voilà. Et elle les a racontées. Et c'était tellement bien que j'ai eu envie de les faire en livre. Voilà. Donc je m'y suis remise. Et j'ai pas commencé par les histoires que je lui avais confiées. Je me suis dit, alors c'est un redémarrage. Alors au fait, qu'est-ce que c'est que cette famille Quichon? Alors déjà, ils sont 73. Ce serait pas mal de remettre ça en scène, qu'ils sont 73. À quel moment on sait qu'on est nombreux? C'est à table. Sinon, ça s'éparpille dans la maison. Voilà. Donc j'ai eu l'idée de ce livre-là, l'idée de comment ça se passe au moment du repas. Et tout vient dans ces cas-là, parce que comme la famille existe déjà très fort, il suffit que je me dise, voilà, moment du repas, et je c'est comme des Playmobil, quoi. La maman, elle est là, je dis, oh non, je suis fatiguée. Voilà. Et ça se met en place un peu tout seul. Et puis pour que le livre démarre vraiment, il faut une collision en général. C'est pour ça qu'elle est pratique cette série, c'est que sur la, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, sur la page de garde, j'ai installé tous les enfants de cette famille. On voit leurs portraits là, tous ensemble, comme une espèce de large photo de classe avec leur nom écrit en dessous. Et quand j'ai fait cette page de garde, donc il y a plus de 10 ans, je me suis dit, je risque de plus avoir beaucoup d'idées le jour où j'arriverai au 73e portrait. Donc pour me donner des idées, j'ai mis des noms de gens que je connais. Je connais tous ces gens-là. 73 personnes, je les connais.
Qui ne sont pas des cochons dans la vraie vie.
Qui ne sont pas des cochons dans la vraie vie. Je les connais à un titre ou à un autre. Voilà. Par exemple, Buster Quichon, je ne l'ai pas rencontré en chair et en os.
Mais Tristan Quichon, Marie-Ange Quichon, par contre, Edith Quichon, Florence ouais. Quichon.
Tous.
Sacha Quichon.
Tous. Et Sacha Quichon, donc. Sacha Quichon, c'est un ami à moi qui est traducteur.
Et donc, ils sont des réserves d'histoire, tous ces gens-là.
Bien sûr. Il s'appelle Sacha Silberfarb dans la vraie vie. Et il est traducteur. Et donc, j'étais en train de tourner autour de cette idée de repas, recette. La façon dont la recette devient une série d'événements, traduction, je vais mettre Sacha sur le coup, voilà. Il se trouve que Sacha fait bien la cuisine.
Ce jour-là, comme l'heure du déjeuner approchait, maman Quichon déclara: aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de faire la cuisine. Moi, c'est pareil, répondit papa Quichon. Pas du tout envie de faire la cuisine aujourd'hui. C'est une chose qui arrive quelquefois. Dans la famille Quichon, les parents sont fatigués. Heureusement pour eux, ils ont des enfants. Ils en ont même 73, alors pas de quoi s'inquiéter. Pour savoir qui choisira le plat principal, on tire à la courte paille, Sacha à la courte paille. Il choisit le plat principal, lasagne du soleil, une recette pour 4 personnes. Comme il y a plus de 4 personnes dans la famille Quichon, on commence par une division et quantité de multiplication que seuls les grands savent faire et on lisse les courses. 4687,5 grammes de farine, 37,5 œufs et puis les 73 enfants Quichon se rendent au supermarché en se tenant bien sur le bord de la gauche. En se tenant bien sur le bord gauche de la route, Sacha marche en tête et il tient le porte-monnaie. Et nous voilà arrivés, Anaïs Vaugelade, dans le supermarché. Tout un tas d'aventures qui vont être vécues au prétexte de cette extraordinaire recette qui doit tout multiplier puisqu'il y a 73 enfants. Vous disiez, j'avais jamais mis de supermarché dans un livre.
écrit, ce qui pourtant fait partie de la vie. Ça veut dire que parfois, vous vous rendez compte que le monde dont vous parliez tout à l'heure, dans le monde de la caravane, il laisse entrer des trucs et il n'en laisse pas entrer d'autres.
Oui, ça marche comme ça, ouais. Souvent, je me dis que le... Parce que quand on fait du dessin narratif, je parle des livres pour enfants, de la bande dessinée, c'est pareil. En fait, on utilise un dessin qui est très académique et qui est forcément très académique parce que on peut pas laisser tout le réel s'engouffrer, sinon ça prend trop de temps et l'histoire avance pas, quoi. Donc on est obligé d'utiliser des dessins qui sont comme qui sont presque plus des signes que des dessins, quelque chose comme ça, et qui ne parle pas du réel vu, mais à défaut du réel vu, il faut quand même que ça parle de quelque chose de senti, quoi. Donc moi, j'ai pas d'a priori sur les supermarchés ou sur les voitures ou sur quoi que ce soit du monde moderne, mais je peux pas les faire rentrer juste au titre que ça existe et que c'est moderne. Il faut qu'à un moment, je le sente bien. Je sais pas comment dire. Il faut qu'à un moment ça soit chargé de quelque chose pour que, bah déjà pour que je sache quoi dessiner, parce que un supermarché c'est bourré de détails, de problèmes de perspective, de taches de couleurs qui partent dans tous les sens et qui sont impossibles dans un dessin. On ne sait plus quoi regarder en fait quand on regarde un supermarché. Pour faire un dessin qui soit narratif quand même, il faut avoir alors qu'on est dans un supermarché, il faut avoir un truc à en dire, quoi, un truc précis. Donc
Donc c'est quoi? C'est la recette qui vous a permis d'avancer dans le supermarché ou...
Là, c'était la caissière.
Parce qu'il y a une caissière dans cette affaire qui reviendra à la toute fin du livre, ouais, Anaïs Vogelade. Peut-être qu'on peut parler justement de la table de travail et du dessin ou du signe. Comment est-ce que vous êtes au travail? Comment est-ce que vous décririez ces dessins-là? Prenons par exemple le moment où en effet ils arrivent au supermarché, il va falloir s'y mettre, il va falloir faire les fameuses courses. Vous travaillez exactement comment pour cet ouvrage-là, Anaïs Vogelade? Par quoi vous commencez? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes vraiment dans une caravane? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil?
Je ne suis pas dans une caravane, mais ça amuse beaucoup les gens qui passent chez moi de constater que mon bureau est la pièce la plus petite de l'appartement. C'est vraiment... j'ai pas mesuré, mais je crois que ça fait 1,5 m sur 2, un truc comme ça. Bon, l'appartement n'est pas très grand, hein, de toute façon, mais... Et comment je travaille? Alors, les décors, c'est toujours un problème pour moi.
Donc parfois, en fait, vous n'en mettez pas.
Donc, quand il n'y en a pas besoin, j'évite. et je continue de penser à un conseil que Claude Ponty m'a donné il y a très très longtemps, il y a donc 27 ans, où je me plaignais déjà de ça, d'être vraiment une bille dès qu'il fallait installer 3 éléments de décor.
Qu'est-ce qui posait problème?
Ça tenait pas, ça. Ben, je suis pas une dessinatrice virtuose. Je peux pas. Mais de toute façon, dans le dessin, tout se voit. Voilà. Dès qu'on n'y est plus, ça se voit, quoi. Et donc, autant les corps, j'ai tout le temps quelque chose à en dire, les petits bonshommes, tout ça. Autant, dès que ça déborde mon champ de vision, je sais pas, c'est comme une timidité, je sais pas par où le saisir. Je pense aussi que ça a à voir avec mon enfance à la campagne et à l'état de contemplation, quoi.
Mais il y a des gens qui diraient complètement l'inverse. Je pense à Catherine Meurice, par exemple, qui dans son dernier album a dessiné sa...
Je l'ai entendu dire ça, j'ai acheté l'album direct pour voir comment elle s'y prenait.
C'était exact. Elle décrivait précisément l'inverse, que son attitude de contemplation, que la manière dont avec ses parents ou sa sœur, elle avait pu passer du temps à regarder les arbres, à regarder le jardin, à regarder la maison, l'avait remplie de choses à dire sur les décors.
Mais il va peut-être y avoir un déclic un jour, je ne sais pas, et tous les décors vont revenir, mais pour l'instant, j'ai l'impression que quand je me mets en comment dire, au moment où je prends la parole,
c'est-à-dire au moment où vous dessinez,
au moment où je dessine, au moment où j'écris, au moment où je me mets à fabriquer quelque chose, C'est difficile à expliquer, ça.
Mais c'est super intéressant.
Oui, bien sûr. C'est comme un... je sais pas. L'image qui me vient, c'est housse réversible. Vous voyez ce que je veux dire?
Ok. Je suis pas sûre que je vois, mais par contre, je trouve ça assez...
Imaginez une... voilà, comme une méduse, ou je sais pas, quelque chose qui serait exposé comme ça, très large, comme ça, et qui prendrait en contemplation tout ce qui arrive du dehors. Et puis le moment d'écrire, c'est comme s'il fallait que ça fasse... je le fais avec mes mains, je sais pas comment faire autrement. Bloup, vous voyez ? Il faut que ça se retourne, et que cette chose très ouverte se retourne pour faire une pointe, et c'est avec la pointe que j'écris. Un truc comme ça. Et alors, tout le... voilà, toute l'ampleur des paysages
se concentre. En fait.
Voilà, se concentre dans voilà. Et donc, ce qui m'en reste, c'est pas le paysage dans son entièreté et son immensité. Ce sera la sensualité de ça.
Oui, son essence.
Voilà. Et j'arrive pas à rendre le tout de ça. Je pense que j'aime beaucoup être à la campagne pour travailler, mais je dessine pas les arbres. Hein.
Qu'est-ce qu'il disait Claude Ponty ?
Donc Claude Ponty, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, alors toi ton truc c'est quoi ? C'est de dessiner le bonhomme à qui l'histoire arrive. Très bien, tu dessines ton bonhomme. Ton bonhomme ça va, tu l'as, je l'ai. Ton bonhomme il est où ? Il est assis sur une chaise, eh bien tu dessines la chaise dans la continuité du bonhomme. La chaise, elle est où ? La chaise, elle est posée sur le parquet. Tu dessines le parquet dans la continuité du parquet qui est dans la continuité de la chaise sur laquelle est posé le bonhomme. Le parquet, jusqu'où est-ce qu'il va ? Il va jusqu'au buffet. Tu dessines le buffet dans la continuité, etc., etc., etc. Sur le buffet, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un pot de fleurs. Et si, au moment où tu t'attaques au pot de fleurs,
t'en as marre, arrête.
T'as perdu le fil, laisse tomber le pot de fleurs. Ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin du pot de fleurs. Voilà.
Super conseil, non ?
Super conseil. Très pratique.
Est-ce que... si on fait ça,
moi je m'imagine faire ça par exemple, mais bon, ce n'est pas mon travail.
Je me dis qu'il y aurait un complètement floutage total des règles de perspective, des proportions, des règles qui font qu'on dessine bien un décor. Que oui, dirait Claude Ponty?
Alors après, je pense que ça dépend du petit bagage technique qu'on arrive à mettre comme ça, sans se poser de questions, au service de ce processus ou pas. Moi, mon bagage technique, il est non existant. La seule chose que j'ai... j'ai fait de la photo à l'école, pas du tout du dessin ou des livres pour enfants ou de l'illustration.
Ça peut aider la photo.
Ouais, mais c'était de la photo, comment dire, je photographiais pas tellement de paysages non plus. Je faisais des machins d'art contemporain à l'époque. C'était beaucoup des portraits avec des bandes son et des moulages de vêtements et des trucs comme ça. Et ça parlait déjà beaucoup d'enfance, mais depuis ma place de jeune adulte, pas de... Ouais, donc le bagage technique, il est tout petit. Donc je suis guidée par ce que j'ai à raconter. Si j'arrive à raconter ce que j'ai à raconter, c'est bon. Je m'arrête.
Je rajoute si pas le pot de fleurs. Pas
oh, je m'obstine un petit peu quand même.
Et ça arrive souvent ?
De pas y arriver ?
Ouais.
Ah oui, pendant des journées entières, des fois tout est mauvais. Mais même quand c'est pas bon, ça sert de socle à la journée suivante ou voilà. Où ça va le devenir.
Faut vraiment avoir envie de raconter l'histoire alors.
Je suis opiniâtre. Je suis opiniâtre. Je dirais que c'est mon unique qualité, presque. Il y a une chose très pratique, quand même, c'est que c'est devenu mon métier. Donc, je sais ce que j'ai à faire, puisque c'est mon métier. Quand j'ai terminé un livre, il faut que j'en fasse un autre, puisque c'est mon métier. C'est une bonne astuce.
Ou dangereux. Ça dépend comment on le voit.
Moi, je pense que c'est pas mal.
Mène les loups, laissez ton faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez ton faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je n'irai pas au bord de la rivière. Je n'irai pas si mon amant y est pas. Je n'irai pas au bord de la rivière. Je n'irai pas si mon amant y est pas. resteront, les blancs s'en vont, le long de la rivière, les blancs s'en vont, les rouges resteront. Je mène les loups, laissez ton faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez ton faire. Je mène les loups, loin de chez vous.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Anaïs Vaugelade. Anaïs Vaugelade, on entendait ici Camille chanter cette chanson qui est une réinterprétation aussi du répertoire folklorique des chansons traditionnelles où il est question de loups, de rivières, d'amants, éventuellement de bergers. On n'a pas précisé, je crois que la famille Quichon sont des cochons.
Ah non, on ne l'a pas dit.
Ouais. Est-ce qu'on ne l'a pas dit parce que ça n'a pas d'importance pour vous ?
Ça n'a pas beaucoup d'importance.
Et est-ce que le loup de la soupe aux cailloux dont je parlais tout à l'heure, ce livre-là qui a donc quelques années, ça avait une importance que ce soit un loup ?
Dans le conte traditionnel, c'est pas forcément un loup. Moi, la version que je connaissais, c'était un conte occitan où il s'agissait d'un vieux et d'une vieille. Tout à fait humanoïde. Et c'était une dispute de couple. Après, par la suite, après la sortie de ce livre, en fait, j'ai des lecteurs m'ont envoyé des versions de absolument partout, d'Afrique, de Pologne, des versions donc de ce conte, La soupe aux cailloux, avec toutes sortes de personnages, parfois des animaux. En Afrique, c'était la soupe du tatou, parfois des figures de soldats, la soupe à la soldate. C'est un soldat dont la retraite est trop pauvre pour qu'il puisse se nourrir, donc il se balade avec un pavé dans le sac. Un conte polonais qui s'appelait la soupe au clou, donc là c'était des humains aussi, mais c'était pas un caillou, c'était un clou. Enfin voilà, mais c'est toujours ça un petit peu les contes, c'est que c'est une série de il y a des éléments et puis des combinatoires avec les éléments. Souvent dans ce conte de la soupe au caillou, il y a le grand âge, mais pas forcément. Il y a la pauvreté de ce qu'on a dans le sac.
Un clou, un caillou, un pavé.
Il y a souvent dans ces éléments à combiner des histoires de générosité, de ruse, de voilà. Puis après, c'est à chaque auteur, enfin ou narrateur de bricoler la sienne propre. Voilà. Quelque chose comme ça. Et pourquoi un loup ? C'est toujours un petit peu gênant, parce que quand on est un humain, on est très habitué au visage humain, n'est-ce pas ? On en a regardé beaucoup.
Si on n'a pas le temps.
Ouais.
En tout cas, on est plus habitué au visage humain
qu'à la gueule du loup. Et du coup, tout est archi signifiant. Le moindre, voilà, un œil posé un peu trop haut. Ah, il est vieux. Ah, alors il est jeune. Voilà. Tous les moindres petits signes sont chargés d'interprétations lourdes tout de suite. Et quand on a envie d'écrire des livres un tout petit peu comme ça à distance quand c'est pas trop collé au réel, il y a plus de chambres d'écho ou quelque chose comme ça. C'est pratique d'utiliser des animaux qui ne trompent personne, dont on sait très bien qu'on parle du... Enfin, les lecteurs, même petits, savent très bien qu'on parle de gens et pas d'animaux quand on dessine des animaux comme cela, quoi. Voilà. Puis ça permet d'aller vite aussi, puisque c'est des livres qui sont assez courts, qui font une toute petite trentaine de pages. Si on pose un loup, ben, tout de suite, le loup, il arrive chargé d'un certain nombre d'éléments. Après, on peut préciser que certains de ces éléments vont manquer. Par exemple, celui-là, il n'a pas de dents. Mais si c'est un loup, ben, tout de suite, dès la première page, on sait que le prédateur entre dans la pièce. Donc si le prédateur rentre dans la pièce, qu'est-ce qui se passe ? Et on peut jouer avec cette attente. C'est un livre de suspense, en fait.
Ah ouais. Mais de même, lorsque vous faites arriver un alligator ou un crocodile, je sais pas comment il s'appelle, finalement, vous jouez aussi avec ça, parce que j'avais pas pensé à cette question de la rapidité. Oui, ouais. Dans Zouza. Ouais. Il y a toujours un alligator qui débarque, c'est une petite fille, alors elle prend son bain, elle se lave, la main, le coude, une espèce de grosse queue d'alligator, avec aussi toute cette idée de la manière dont le prédateur entre, mais aussi le sexuel, mais aussi les angoisses, mais aussi finalement, à chaque fois, c'est beaucoup d'altérité qui débarque avec ces animaux-là.
Ouais. Oui, bah c'est pour ça qu'il y a un bestiaire un peu répétitif dans les livres pour enfants, c'est que ceux-là sont particulièrement bien dotés. Donc
vous les utilisez.
Donc pratique à utiliser.
Mais voilà. Comme une palette, vous disiez tout à l'heure, finalement, dans ma caravane, j'ai des outils, je les agence. Mm. Vous êtes très consciente de ces outils-là, Anaïs Vogelaine ?
Je peux revenir à ce que vous disiez juste avant la chanson.
Bien sûr.
Vous me demandiez si c'était pas un peu dangereux que ce soit
un métier. En tout cas, je disais que ça pouvait l'être.
Oui, bien sûr. Mais parce qu'on a toujours peur de devenir un espèce de petit professionnel de la profession.
Il y en a qui s'appelaient par ailleurs.
Mais comment dire ? Moi, j'ai l'impression de me déplacer à l'intérieur de ce métier. C'est-à-dire que si on regarde rapidement, oui, je suis toujours en train de faire la même chose, j'ai le même éditeur, etc. Mais moi, quand j'ai l'impression qu'à l'intérieur de ce petit genre, parce que je répète, c'en est un, mon envie et ce à quoi j'accorde mon attention, elle n'arrête pas de se déplacer. C'est pas exactement les mêmes choses que je cherche et que je mets en scène à chaque fois, même si, de loin ça se ressemble. Mais le fait que ça se ressemble, en tout cas que ça ressemble à un livre pour enfants, c'est un peu la loi du genre.
Mais est-ce qu'on dirait pas ça d'un roman ou est-ce qu'on dirait pas ça d'un film ? C'est-à-dire finalement, est-ce que vos livres ressemblent plus les uns entre les autres que n'importe quel roman ou n'importe quelle œuvre cinématographique ?
Oui, c'est sans doute un petit peu la même chose. Mais je dirais presque, j'irais un peu plus loin en disant que je prends soin que ça ressemble à un livre pour enfants. Il faut que ça ressemble à un livre pour enfants, c'est la condition.
Et ça ressemble à quoi un livre pour enfants ?
C'est il y a un poli de surface, il y a un lissé comme ça.
Un acceptable au sens poli dans ce sens-là ?
Ouais. Non, au sens briqué aussi. Enfin,
voilà, ok, quelque chose qui est la politesse du langage.
Mais ça va. Je suis contente de la polysémie.
Il faut que ça puisse entrer dans les maisons, quoi.
Il faut que ça puisse entrer dans les maisons. Il faut que les parents, parce qu'en fait, ces livres, ils sont lus par des adultes à des enfants. Donc les parents les prennent avec un petit sentiment de responsabilité, quoi. Voilà, ils ont comme une petite crainte de quand même pas lire n'importe quoi, voilà.
Ont-ils raison ?
Ils font comme ils veulent, hein. Je constate qu'ils font comme ça.
Responsabilité que vous partagez alors ?
En tant que maman ?
Non, en tant qu'autrice.
Ben, je trouve que c'est un endroit où la provoque ne sert pas à grand-chose. Voilà. Je suis d'accord pour que ça ressemble à un livre pour enfants et qu'on parte du principe que bon an, mal an, ça va bien se finir, par exemple. Ok. On va se débrouiller pour que ça se termine pas trop mal. En plus, je me dis toujours que je m'adresse à des enfants qui ont vécu beaucoup moins que moi. Et si j'ai envie de leur parler de choses dures, là, ils sont pas là sur votre table, mais ça m'est arrivé quand même de parler de trucs...
La peur.
De sujets lourds.
La guerre.
Voilà. Je peux pas le leur balancer comme ça et débrouille-toi parce qu'ils ont pas autant d'outils que moi pour relativiser, pour mettre les choses à une certaine place. Donc je fais en sorte que dans le livre, il y ait tout le petit matos nécessaire pour que les choses soient à la plus juste place possible.
Mais par contre, ces choses-là, elles peuvent être vraiment, vraiment très larges, c'est-à-dire qu'elles vont de la joie d'être ensemble à la difficulté de nourrir 73 personnes, à ce que c'est que la guerre, à ce que c'est que la mort, à ce que c'est que l'amour qui débarque alors qu'on n'avait pas prévu. On a l'impression, Anaïs Vaugelas, que sous cette politesse polysémique, vous êtes d'accord par contre pour globalement parler de tout.
Ah ouais, bah bien sûr. Ah bah sinon ce serait vraiment pas drôle. Oui, oui. Non, mais en fait, voilà. En fait, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est que moi, j'estime que les enfants sont des gens comme les autres et que j'aurais bien tort de pas m'adresser à eux avec tout ce qui me préoccupe. Parce que je les soupçonne d'être préoccupés aussi et que je vais pas les laisser tout seuls avec leurs tourments. Enfin, ce serait vraiment sadique de leur refourguer que de la littérature qui dit que tout va bien alors qu'ils savent dès la deuxième semaine de leur existence que tout ne va pas bien. Et d'ailleurs, le biberon n'est toujours pas arrivé.
Si ce n'est avant.
Enfin, voilà. Donc, on va pas les laisser tout seuls en leur faisant croire qu'il y a que le monde va mal uniquement pour eux. Donc, bien sûr, je parle absolument de tout. Et les auteurs avec qui j'aime travailler, que j'aime publier, sont des gens qui sont partants pour parler absolument de tout et qui sont en général des personnes assez chargées, quoi. Voilà. Mais ensuite, le travail qu'on fait ensemble et en fait ce dont je vous parle depuis le début, c'est comment de cette humanité forcément tout ce que vous voulez.
Chamboulé, contradictoire, complexe, émotive.
Certains jours, gna 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 gna. Comment on va glisser tout ça dans un livre pour enfants? Voilà. Et le job, c'est ça. Et c'est quand il y a cette tension-là que le livre est bien.
Alors, on a parlé de... Parce qu'il faut des outils pour faire ça, oui. Anaïs Vaugelas. Alors, on a parlé du petit bagage technique dont soi-disant vous ne disposez pas.
Il est tout petit.
Il est tout petit. Alors, vous le disposez, mais il est tout petit. Il faut quoi comme outil pour réussir à faire ça? Pour réussir à faire ce job qui est transformer des angoisses existentielles en un truc lisible et vivable pour un enfant de...
Et supportable pour le parent aussi. Et comment on fait? Eh bien, je ne sais pas, 27 ans de métier, madame.
Comment ils font? Alors, si vous ne parlez pas de vous, comment ils font les gens qui réussissent autour de vous à le bien le faire?
Mon petit métier d'éditrice, c'est de chercher avec chacun comment cet auteur-là, bien particulier, tout à fait singulier, va réussir à le faire, quoi. C'est pas deux fois la même chose.
La BD, c'est très épuisant en fait, parce que quand on crée des scénarios, on joue tous les personnages. Je sors dehors, je me mets à marcher, je me mets à jouer les personnages et à sortir leurs dialogues, quoi. C'est ça, c'est de la scène, hein, en fait. Je sais pas si vous avez déjà vu en fait des auteurs de bandes dessinées sur le vif en train de dessiner leur BD. On voit quand ils sont en train de dessiner le personnage, on voit l'expression du personnage, ils l'ont sur le visage. C'est assez troublant. Il faut s'imaginer l'attitude que le personnage a, et à ce moment-là, ça sort assez automatiquement. Et c'est ça l'écriture BD, en fait. Tout vient en même temps. C'est-à-dire le dialogue et le dessin arrivent en même temps. C'est l'écriture, voilà. Plutôt que de faire, en fait, des descriptifs, comme en écriture, en littérature, ça vient directement par le dessin. Tout de suite, on met ça en situation, et la scène qui est jouée, est retranscrite, en fait, sur le papier.
Again, I would like to say no thing.
Émile Bravo, en 2008, il était au micro de Rebecca Manzoni sur France Inter dans l'émission Éclectique, qui a l'air de dire que écrire de la bande dessinée, mais en fait on peut aussi considérer, puisque vous utilisez certains codes de la bande dessinée, Anaïs Vaugelas, écrire les livres que vous écrivez, ça vous fait vivre une vie intérieure drôlement mouvementée. En tout cas, si on considère que vous travaillez comme le décrit Émile Bravo.
Oui, j'ai deux petites anecdotes auxquelles je pense. Parce que, donc en général, je travaille chez moi dans la pièce la plus petite de l'appartement. Mais il m'est arrivé quelquefois de plus en pouvoir et de rejoindre des amis dessinateurs dans leurs ateliers collectif. Et alors, il y a un petit rigolo qui, un jour, m'a filmé en train de dessiner, parce que quand je dessine, je fais toutes les bouilles, mais vraiment toutes les bouilles, quoi. C'est...
Parce que quoi, vous avez l'impression que passant par votre corps, ça va arriver jusqu'au bras.
C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'était sur un Zouza il y a très longtemps.
Zouza, faut dire qui c'est.
Alors Zouza, pardon. Zouza, c'est une petite fille dont j'ai raconté pas mal d'histoires dans pas mal de livres que j'aime bien.
Moi aussi.
Donc une fois, je calais sur un dessin où elle était censée faire un sourire vraiment engageant, et puis je trouvais pas le sourire, et je me suis mise devant un miroir pour regarder quelle tête j'étais en train de faire au moment où j'essayais de faire ce sourire qui ne venait pas. Et quand j'ai vu ma tête, je me suis dit, voilà pourquoi ça marche pas. Allez.
Souris donc, feras sourire Zouza.
Il y a une connexion très très directe entre. C'est pour ça que j'ai plein de rides là sur les côtés que les enfants me font remarquer.
Parce
que je fais vraiment toutes les bouches. Et je sais plus. C'était quoi la deuxième anecdote ?
En tout cas, vous aussi, vous entendez les personnages parler, vous les voyez bouger, vous les sentez bouger, voire vous bougez pour eux.
Ouais. Ça signifie... On bouge ensemble au moment où je dessine.
Donc vous avez eu une connaissance progressive de la moindre mimique humaine, de notre anatomie qui a été comme ça grandissante avec les années de travail ?
Je crois que ouais. Ouais, on joue beaucoup à faire des lectures de body language, puisque les gens disent comme ça, avec mon petit garçon.
Donc c'est comment on se révèle par les gestes que nous faisons ?
Les postures, comment on met les épaules, comment on met le cou, où sont les clavicules, tout ça.
Ça me fait penser à un livre où il s'agit de fabriquer son petit frère.
Et son
grand frère, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Rien à voir en plus, c'est tellement pas la même
fabriquer
chose.
Fabriquer un petit frère, c'est trop facile.
Ouais, exactement. Non, puis en plus, il y a déjà une sorte de petite descendance. Non, c'est un grand frère. Et donc, bon, il s'agit de fabriquer un grand frère, mais ça passe par une grande connaissance anatomique où le squelette est complètement décomposé, où les muscles, la peau, la texture. Ça dit aussi votre intérêt pour le corps. Vous disiez tout à l'heure, Anaïs Vaugelas, le corps, j'ai toujours quelque chose à dire là-dessus.
Ouais. Je ne sais pas pourquoi.
Tous les corps, alligator, cochon et loup compris.
Ouais. Je me suis dit pendant longtemps que c'était parce que, avant de venir à Paris, je me suis retrouvée dans un internat de filles, qui était vraiment un internat, comment dire, à l'ancienne. 120 lits, alignés les uns à côté des autres, avec des petites armoires par-ci par-là, mais qui n'allaient pas jusqu'au plafond pour... faire des espaces. Donc autant dire que au bout de 15 jours, on voit tout le monde à poil, quoi. Et donc j'ai beaucoup beaucoup dessiné mes copines. Et il y avait pas de rideau aux douches non plus. J'ai beaucoup dessiné mes copines.
Parce qu'en fait, c'est à beaucoup regarder les corps finalement. Ouais. Quand vous dites ça, je pense aussi à la manière dont on peut à la piscine ou au hammam encore plus regarder la spécificité de chacune des silhouettes, des grains de peau, des seins, des fesses et des pieds.
C'est infini.
C'est infini.
Ouais. Avec le plaisir de la systématique.
C'est-à-dire ?
C'est toujours une fille, elle a toujours 16 ans, mais c'est pas du tout la même que celle d'à côté, voilà. C'est le plaisir des boys bands, quoi. On les aligne et puis ils ont tous leurs petites caractéristiques, tout ça.
Et c'est pareil pour les alligators, je repose la question, parce que je trouve que finalement, cette science de l'anatomie, vous l'appliquez aussi quand ce sont des petits cochons de la famille Quichon.
Je les mime pareil, hein. Je les mime autant que Zouza, un sourire de cochon, pareil, comme je le fais passer par moi, alors que je n'ai pas de groin.
Personne n'est là pour vérifier, c'est de la radio.
Je fonctionne plus comme un appareil photographique. Je dirais plus quand je dis que je suis pas dans la morale ou je pars pas de. J'observe les enfants, pas forcément les miens, hein, mais les autres. Et j'essaie de reproduire un peu ce que je vois et d'être, par exemple, l'un de mes livres s'appelle Bébé Cadom, et donc c'est l'arrivée du petit frère de Simon. Gaspard arrive et Simon, il supporte pas l'arrivée de ce bébé et il dit, mais quand est-ce qu'il retourne à l'hôpital, ce bébé Cadom? Mais il est là pour toujours. Mais oui, c'est ton petit frère, Simon, il est là pour toujours. Mais comment ça se fait? Mais moi, j'en veux pas. Si c'est comme ça, je fais caca partout.
C'est une petite ogresse. Sa maman est morte, son papa est mort, et elle vit seule dans un immense château. Chaque dimanche, à déjeuner, la petite ogresse mange un enfant. C'est une tradition de famille, chez les ogres, on mange un enfant par semaine, et deux les jours de fête.
la petite ogresse chasse l'enfant chaque mercredi. En travers d'un chemin, elle installe une cage dont la porte est maintenue ouverte par une corde. Dans la cage, elle pose un gâteau. Les enfants veulent le gâteau, ils entrent dans la cage et ils sont tellement bêtes. Aussitôt, l'ogresse lâche la corde, la porte tombe, l'enfant crie, il pleure, il appelle sa mère mais c'est trop tard. Un mercredi, la petite ogresse voit un garçon s'approcher de la cage. Il s'arrête, lève les yeux et la regarde. Zut, pense l'ogresse. Mais le garçon entre dans la cage et s'assoit tranquillement au fond. Ma parole, se dit l'ogresse, celui-là est encore plus bête que les autres. Et elle lâche la corde. Le garçon ne pleure pas, il ne crie pas, il n'appelle pas sa mère. Il dit « Bonjour, êtes-vous une vraie ogresse ?» Quel enfant bizarre, pense-t-elle. Je me demande s'il est comestible. Donc à la suite de cette archive de Stéphanie Blake, au micro de Martin Kenen et Mathilde Serrel en 2016 sur France Culture, j'ai lu le début pour se mettre en appétit du déjeuner de la petite ogresse, donc un ancien succès à vous, Anaïs Vaugelade, pour se mettre en appétit et peut-être aussi pour essayer de réfléchir à ce que disait Stéphanie Blake de la position d'observation, de la manière dont on écoute, de la manière dont on regarde qui est autour de nous. Alors vous disiez avec la famille Quichon, finalement, tout le monde vous inspire, mais est-ce que les enfants particulièrement, vous les regardez plus que les autres ?
Alors, il m'est arrivé un truc il y a maintenant 11 ans, c'est que j'ai eu un petit garçon moi-même.
Drôle d'histoire.
Je crois qu'avant ça, je regardais pas les enfants plus que les autres. Enfin, vraiment, voilà. Des gens autour de moi, des étapes différentes de leur... progression dans le temps, quoi. Voilà. Et puis quand ce petit garçon est arrivé, et quand j'écrivais et quand je mettais en scène des enfants dans mes livres pour enfants, je pense que sans trop me poser de questions, l'enfant c'était moi, quoi. Voilà, c'était moi. Je le disais pas, mais ça se faisait comme ça. Sauf que là, maintenant, il était là devant moi et il était dans la place, quoi. Il était dans la place et ça a fait vraiment beaucoup changer mon dessin. Parce que, voilà, le personnage de Zouza, par exemple, cette petite fille, que souvent les parents l'aiment pas tellement, sont un peu mal à l'aise, ce qu'ils trouvent qu'elle est moche. Une petite fille, ça se dessine pas comme ça, elle est moche, elle a des rictus, mais c'est parce que c'est une petite fille. Enfin, je me l'explique comme ça, c'est parce que je l'ai dessinée de l'intérieur. J'ai pas regardé le lycée de son visage et sa peau de velours, quoi. Sauf que là, j'avais moi-même un bébé à demeure et j'étais comme pas mal de parents en extase devant le velouté de sa peau, la rondeur de sa joue, etc. Et quand j'ai eu envie de dessiner un enfant, je pouvais plus, je pouvais pas ignorer le cette espèce de petite joue là comme ça. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai écrit 4 petites histoires qui sont rassemblées dans un coffret. Ça s'appelle Les 4 histoires d'Amir, parce que mon fils s'appelle Amir. Ah, je suis pas allée chercher très loin. Voilà, et donc je l'ai dessiné et j'ai refait ces dessins un nombre incalculable de fois parce que j'étais jamais satisfaite. Du molletonné du bras, du potelé du dessus de la main, voilà. Je m'en lassais pas, quoi. Et c'est des livres, bah, les gens qui avaient aimé Zouza me reconnaissaient assez peu dans ce truc-là. Moi, je les aime bien, hein, mais voilà. C'est comme si ça avait été une sorte de parenthèse. La suite de l'histoire, c'est que, mon garçon ne lit aucun livre pour enfants et n'en a jamais lu et refuse absolument d'en lire. Il est passé des bandes dessinées qu'il a trouvées chez moi sur l'étagère adulte au roman. Il m'a enjambé merveilleusement. Donc voilà, il est plus dans la place. Puis de toute façon, maintenant, il est presque un pré-ado. Là, il est rentré au collège, tout ça. Donc je j'ai l'impression que je peux reprendre mon ancienne position.
Mais qui sera toujours votre propre enfant intérieur et non pas les autres enfants que vous observez.
Et pas un enfant regardé, quoi. Pas un enfant regardé. Et en même temps, donc je les regarde pas, mais en même temps, l'histoire de Mimi Quichon, le premier frère de Mimi Quichon, ça, c'est une chose que j'ai observée de mon petit garçon. En fait, il y a des trucs, j'ai des interrupteurs ici et là, des trucs qui me font pleurer systématiquement, et les histoires d'adoption, toutes les histoires d'adoption me mettent dans un état émotionnel non contrôlé. Voilà. Depuis toujours. Je sais pas pourquoi. J'en ai d'autres comme ça. Pas que les mariages et les deuils, voilà. Et un jour, et mon petit garçon avait un frère imaginaire comme beaucoup d'enfants. Un frère imaginaire qui avait une vie tellement plus, voilà, tellement, tellement mieux que la sienne.
Et un jour. Qui n'avait pas de parents.
Et qui n'avait pas de parents, voilà. Et un jour, alors qu'il était en train de me parler de ce frère imaginaire, j'ai eu une montée de larmes qui a précédé la prise de conscience, enfin, qui a précédé l'idée, je veux dire. Donc, il me parlait de ce frère imaginaire qui, donc, n'avait pas de parents et avait une vie très différente de la sienne, très exotique, en fait. Et,
très lointaine, et très qui lointaine, ne s'atteignait qu'après des bus, des avions, de la route.
Voilà. Et c'est au moment où les larmes me venaient aux yeux que je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il me parle d'adoption. Il me parle d'un enfant à adopter. Voilà. Et c'est ça que j'ai mis dans cette histoire de qui s'appelle ce livre qui vient de sortir qui s'appelle Le premier frère de Mimi Quichon. Donc c'est Mimi Quichon, Amir Quichon déguisé,
un des 73,
voilà, qui parle de son frère imaginaire jusqu'à ce que ses parents entendent que peut-être il faudrait adopter un enfant, et ça forme un espèce de préquel de la famille Quichon, parce que moi, quand j'ai dit qu'ils étaient 73, c'est parce qu'il me fallait un gros chiffre. Mais j'avais pas encore d'enfant, donc je me rendais pas tout à fait compte.
Que ça fait beaucoup à fabriquer quand même.
Voilà, ça me permet de donner une explication à ce gros chiffre.
Qu'il y aura peut-être beaucoup d'enfants adoptés dans la famille Quichon.
Oui, après, ils vont pas avoir des petits, ils vont pas avoir des post-it. Alors celui-là, voix naturelle. Non, on va pas faire comme ça.
Bah, d'autant plus que ça parle aussi de ça. Ça parle aussi de la tendresse et de l'amour infini qui vient entourer Mimi Quichon comme. Le deuxième enfant Quichon, troisième enfant Quichon, quatrième enfant Quichon.
Exactement.
Et vous, Irène Schwartz, vous vous souvenez de vos lectures d'enfance?
Oui, je me souviens très bien de mes lectures d'enfance, ou plutôt des lectures qu'on me faisait. C'est-à-dire que moi, quand je pense livres pour enfants, d'abord, c'est ceux sur lesquels je travaille aussi, c'est-à-dire des livres pour les tout-petits. Et je me souviens surtout que lire un livre, évidemment, ça n'était jamais que je lisais le livre, c'était que je m'asseyais sur les genoux d'un adulte, de mon père en particulier, qui me lisait l'histoire, tous les soirs la même, évidemment.
Mais jamais et vraiment la même.
Si, puisqu'il fallait toujours que les mots soient répétés, toujours les mêmes, et qu'on n'en oublie pas un. Et puis, au bout d'un certain nombre de semaines, évidemment, comme beaucoup d'enfants, j'ai dit que je savais lire, parce que je connaissais l'histoire par cœur. Mais je trouve que ce sont quand même des livres pour enfants, dans le sens où ce sont des livres que les enfants, nous ne les lisions pas. Ils étaient lus par quelqu'un d'autre. C'est spécifique, ce sont des objets aussi, c'est-à-dire des choses qu'on touche, qu'on déchire, qu'on caresse. Quelquefois, on veut les emporter dans son lit.
Qu'on griffonne.
Ce sont quand même des livres spécifiques, je trouve. Bon, ça existe, les livres pour enfants.
Ça existe, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, Anaïs Vaugelas. Ici, c'est Irène Schwartz. C'est la dernière archive qu'on entendra, 1988. Elle était au micro de Laure Adler. Pour se souvenir de ses propres lectures d'enfance, alors vous parliez des lectures d'enfance de votre propre garçon qui vous a royalement enjambé. Plutôt bonne nouvelle, on ne sait pas, on verra. Est-ce que vous vous souvenez des vôtres?
Ah oui, très très bien. Très 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 bien même.
Au point que ça reste assez près, peut-être.
Non, au point que je pense que ça a orienté toute mon existence, en fait. Bon, j'habitais à la campagne. dans une maison isolée à 1 kilomètre d'un tout petit village d'une centaine d'habitants, donc il n'y avait pas de bibliothèque. Et je me plais à raconter que quand enfin mes parents, très très baba cool, se sont décidés à avoir une télé, en fait, on ne pouvait voir la télé qu'en hiver parce que il n'y avait pas de feuilles dans les arbres et que l'émetteur situé de l'autre côté de la montagne arrivait jusqu'à notre écran.
Il fallait un peu à l'alignement des planètes, quoi.
Alors qu'en été, c'était Canal+, crypté sur toutes les chaînes. Voilà. Donc tout ça pour dire un genre de désert culturel, comme ça. Sauf que ma maman était institutrice, et comme pas mal d'instituts dans les années 70-80, elle avait repéré qu'il y avait un peu de frémissement là, dans la littérature pour enfants. Et elle achetait pas mal de livres de l'école des loisirs qu'elle achetait pour sa classe, qui revenait à la maison, qui repartait de la maison, qui retournait dans la classe, etc. Donc j'ai eu ça, j'ai eu pas mal de livres de l'école des loisirs, quoi.
Oh là, c'est fou comme la boucle se boucle.
Et comme il n'y avait pas grand-chose d'autre, je les ai lus, mais vraiment je les ai... plus que lu. Je les ai aspirés jusqu'à la dernière goutte, quoi. Et avec l'impression d'avoir une intimité avec ces gens qui avaient fait ces livres. C'est-à-dire, je pensais pas que c'était des gens, mais ces livres, parce qu'ils me parlaient on se parlait d'amam, quoi. De choses dont les enfants n'ont pas tellement l'habitude de parler, d'évoquer. C'était vraiment des amis. C'était des amis très intimes, comme ça.
Merci beaucoup, Anaïs Vaugelade. On n'a qu'à mettre plein de nouveaux amis intimes dans les bibliothèques de nos enfants, et de nos copains, et de nos copines. Le dernier, c'est le premier frère de Mimi Quichon. Et on a aussi parlé de la recette de Sacha Quichon. Et on a parlé de plein d'autres livres qu'on mettra sur le site internet de Parler Temps qui court. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À la prise de son ce soir, c'était Élise Leu. À la réalisation, c'était Charles Trou. Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chassor et Lucie Riandet. C'est aussi une page sur franceculture.fr et un podcast via toutes les bonnes applications. Dans un instant, 22h et bientôt le journal. Très belle soirée à vous.